Bonjour, ici Radio Grand Ciel de notre studio de Châteaudun, avec à la régie Jean-Marie et au micro Henri. Nous accueillons aujourd'hui pour notre émission mensuelle Histoire et Mémoire, Monsieur Roger Juden. Bonjour Monsieur Juden.
Bonjour.
Vous nous faites le bonheur de venir parmi nous, mais vous connaissez déjà Radio Grand Ciel Chartres, vous êtes même maintenant chartrain, et comme vous venez faire un petit tour à Châteaudun, de temps en temps, hop, au passage, on vous fait un petit coucou et vous venez. Et justement, récemment, vous êtes venu à la médiathèque de Châteaudun pour présenter votre dernier livre, le dernier de vos nombreux livres, on va en parler tout à l'heure, et qui s'intitule « Et demain le TGV ». Et c'était une petite conférence de 2 heures, et on n'a pas vu le temps passer, tellement c'était passionnant ce que vous nous racontiez. Alors, racontez-nous qu'est-ce que c'est que ce TGV vient faire dans notre terroir.
D'abord, je veux vous remercier parce que j'apprécie beaucoup à la fois votre invitation et à la fois les paroles que vous venez de prononcer. Et ce livre, ce roman, « Et demain le TGV » est effectivement, non pas mon premier livre, mais mon 122e livre. 122, c'est aussi le privilège de l'âge, sans doute. Ça veut dire que je publie depuis très longtemps et j'accumule. Enfin, je suis tout surpris aujourd'hui de me retrouver avec 122 titres à mon actif et plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans la France entière. Donc j'en suis fier, mais je suis très, très surpris. Et ce roman est « Demain le TGV », comme beaucoup d'autres romans du terroir qui se déroulent en Beauce et que j'ai écrit, c'est un roman. Et un roman, par définition, c'est une fiction. L'auteur raconte des choses qui, normalement, n'existent pas, qu'il invente, qu'il imagine. Mais il est bien évident que l'auteur, le romancier, se nourrit de tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tous les contacts qu'il a eus. Enfin, il se nourrit de tout ce qui se passe dans sa vie personnelle. Et il se trouve que, moi, je suis un rural, j'ai été élevé dans un petit village, à Gelninville. J'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence autour de Chartres. Et puis mon premier poste d'instituteur, quand je suis revenu du service militaire, a été Rouvray-Saint-Florentin, à côté de Voves, en plein cœur de la Grande Beauce, comme j'ai plaisir à le dire, un village de 182 habitants. Et à l'époque, quand on demandait un poste rural de classe unique, pour en devenir titulaire, il fallait aussi accepter le secrétariat de mairie. Il y avait 404 communes à l'époque en Eure-et-Loir, il y avait 330 qui étaient tenues par des secrétaires de mairie instituteurs. Et la mairie, c'était un travail supplémentaire où on faisait évidemment les papiers de mairie, les budgets, la gestion des chemins, du cimetière, etc. Mais on rendait aussi beaucoup service aux habitants. La mairie, c'était aussi le lieu qui était un petit peu l'assistance sociale pour les gens qui étaient en peine pour remplir leurs papiers. Et à ce titre-là, on était au courant de... C'était un petit peu le parallèle, le pendant du confessionnal dans l'église, quoi. On était au courant de ce qui se passait en profondeur dans les familles. Et ça, pour un romancier, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je m'en sers énormément des anecdotes qui sont nés que j'ai entendu à la mairie. Je m'en sers énormément dans tous mes romans du terroir. Et le TGV, ça fait partie de ça. Alors évidemment, à la mairie, on a suivi et pour une grande part géré le projet TGV de A à Z, avec le maire évidemment, puisque c'est le maire qui était responsable de tout. Alors il y a eu, j'ai donc eu tous les documents, j'ai assisté à quantité de réunions, quantité de débats. Et j'ai en mémoire quantité de la matière à écrire ce livre. Et c'est ce que j'ai voulu restituer. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les faits. Je ne suis pas historien. Ce n'est pas les faits bruts. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de reconstituer la vie, l'état d'esprit des gens qui ont vécu cette période. Et pour nous, il y a eu l'aspect technique TGV. Alors ça a été plutôt géré par des ingénieurs de la SNCF et par des grandes entreprises. Et en l'occurrence, pour nous, c'était l'entreprise BEC, une très, très grosse entreprise internationale. Mais il y a des choses qu'on a gérées, nous, sur le terrain, et qui nous concernaient, comme par exemple leur membrement, qui a été rendu indispensable par le passage de ce TGV. Et le remembrement, la SNCF ne s'en est pas occupée. La SNCF a tout payé. Mais elle a donné un gros chèque au maire, et à charge pour le maire d'organiser tout ça. Ça a été un énorme travail. Et non seulement le TGV, mais tout ce qui va avec, c'est-à-dire les rétablissements routiers, les changements de chemin, tous les travaux connexes. Les travaux connexes, c'est arracher des haies, les replanter, modifier l'emplacement de certains bois, puisque on ne parlait pas d'écologie à cette époque-là, mais nous, à Rouvray, on partait du principe qu'un mètre carré de haies ou de bois arrachés, c'était un mètre carré de bois ou de haies qu'il fallait replanter ailleurs, dans un endroit qui convenait mieux. On vivait, c'est vrai qu'on vivait un petit peu dans le luxe, puisqu'on ne payait pas. La SNCF a finalement acheté l'adhésion des gens du coin en satisfaisant leurs demandes et en finançant la totalité. Ça a coûté une fortune. Mais la contrepartie pour la SNCF, c'est que les gens ont adhéré. Il n'y a pas eu d'opposition de principe sur le passage du TGV. Et en particulier, ce que craignait la SNCF, c'était d'avoir des recours en justice qui durent des 5-10 ans et qui font perdre de vie très cher, surtout quand il s'agit de gros projets comme ça.
Et donc, vous avez, c'est un coup de maître d'avoir réussi à accorder tous les cultivateurs du coin pour tout le monde s'est bien entendu et
dire que ça s'est passé sans aucune discussion, ce serait sans doute exagéré. Mais à Rouvray, je prends l'exemple de Rouvray parce que je connais bien, mais au travers de l'exemple de Rouvray, c'est à peu près toutes les communes rurales peuvent se reconnaître. Ça s'est passé à peu près partout de la même façon. Et oui, ça s'est pas trop mal passé. Mais il faut dire que leur membrement, c'était un enjeu considérable pour les agriculteurs. Et la terre, c'est leur outil de travail. Puisque il y avait déjà eu un membrement en 1953. Mais en 30 ans après, les besoins n'étaient plus les mêmes. Et en particulier, ils utilisaient des matériels beaucoup, beaucoup plus gros. Or, quand on a du matériel, pas de doute, on voit bien les moissonneuses-batteuses qui coupent le blé en ce moment, ces dernières années, dans la région. On ne voit pas comment ils peuvent passer dans un chemin de 4 mètres qui est bordé avec des haies de chaque côté. Les barres de coupe sont énormes. Donc, ça nécessite d'avoir des pièces, des champs beaucoup plus grands. D'autant plus que l'irrigation, c'est considérablement développé. On ne peut pas irriguer des bouts de champs qui se trouvent aux quatre coins de la commune. Donc le remembrement, ça a été une opération qui a été difficile, longue, complexe, très complexe, parce qu'il y a nécessité d'être juste, parce qu'il y a la capacité de travail, l'outil de travail, mais il y a aussi la valeur de ces terres qui entre en jeu. Donc il faut que le principe, c'était on met tout dans le pot commun, mais à l'arrivée, il faut que personne n'y gagne, personne n'y perde. Il faut être juste.
Parce que même dans un même territoire, les terres pouvaient être un peu de qualité différente.
Oh, de très, 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 très différentes. Dans toutes les communes, vous avez des terres qui sont de bonne qualité. Les très bonnes terres, un bon agriculteur, une bonne année, peut arriver à faire presque jusqu'à 100 quintaux de blé. Dans une terre pierreuse qui n'a pas de fond, on a du mal, les mauvaises années, on a du mal à faire 25-30 quintaux. Hein. C'est l'enjeu est considérable quand on fait un remembrement. Il faut absolument équilibrer. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes. Quand on a des terres tout autour de sa ferme, qu'on n'a pas de déplacement à faire, c'est plus rapide, c'est plus facile que quand on a besoin de traverser des carrefours, des routes avec une grosse circulation et des terres qui se trouvent à 2 km de la ferme ou 3 km de la ferme. Donc l'enjeu est considérable. Mais à Rouvray, ça s'est pas mal passé. Et ça s'est bien passé grâce principalement à un homme, puisqu'à Rouvray, mais c'est vrai dans d'autres communes, il y a un château qui est une propriété foncière très importante. Or, le comte n'était pas concerné, n'était pas touché du tout par l'emprise du TGV. Il n'avait aucune raison de participer. Sauf qu'il a mis quand même ses terres dans le pot commun. Lui, il a vu très, très, très loin, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il en tire le bénéfice 30 ou 40 ans après. Mais ça a été un geste de solidarité qui a surpris, mais qui a été très, très, très apprécié. Parce qu'il est évident qu'étant l'un des plus gros propriétaires de la commune, c'est lui qui a laissé le plus de terres alors qu'il n'était pas concerné.
Oui, c'était le château de Reverso.
C'était le château de Reverso, dont j'ai écrit aussi un livre pour raconter les 600 ans de cette histoire, de l'histoire de ce château, parce que non seulement c'est une belle propriété, mais il y en a d'autres en Eure-et-Loire, en particulier dans la région de Châteaudun, mais c'est aussi une propriété qui a une histoire extraordinaire.
Eh bien, en attendant la suite, on va faire une pause musicale. Prenons notre émission avec M. Roger Judaine, un de nos grands romanciers locaux. Nous étions en conversation sur cet événement extraordinaire, un TGV, toute la modernité qui débarque et qui va labourer ce coin de Beauce où vous avez vécu. Et alors, donc, vous nous expliquiez que le remembrement nécessaire de ce fait s'était bien passé, mais il y a eu un petit problème au niveau du cimetière. Racontez-nous.
Au tout début, quand le président Mitterrand a annoncé le TGV, on ne savait pas exactement où allait passer ce TGV. Et puis, très rapidement, 3 mois avant Noël 1981, toutes les mairies ont reçu une brochure où il y avait un projet de tracé. Et il y avait des impératifs techniques, évidemment. Le TGV suivait la petite ligne Bretigny-Tours qui a été faite en 1865. Et pour des raisons techniques, au niveau de Vauvres, Ouvray, le Gau-Saint-Denis et jusqu'à Bonneval, la ligne nouvelle TGV devait passer au nord de la petite ligne Bretigny-Tours. Pour nous, à Rouvray, on a tout de suite vu que c'était un gros, gros problème, parce que la petite ligne Bretigny-Tours bordait le cimetière. Donc, passer au nord de cette petite ligne, ça voulait dire amputer la moitié du cimetière pour faire passer le TGV. Quand les ingénieurs de Paris sont venus, ils ont bien compris que c'était un problème, mais pour eux, ce n'était pas vraiment un problème, c'était uniquement un problème d'argent. Et tout de suite, ils ont dit au maire, on ampute la moitié du cimetière, mais tranquillisez-vous, rassurez votre population, on vous rachète une parcelle, on refait les clôtures du cimetière, on déplace la croix, on transfère toutes les sépultures, tout est à nos frais, les familles ne payent rien. Les familles ne payent rien, mais même avec une pierre tombale toute neuve offerte par la SNCF, les gens ne voyaient pas les choses comme ça, parce que exhumer le grand-père ou le cousin ou des gens qui étaient enterrés quelquefois depuis seulement 10 ans, quelquefois depuis 80 ans, c'est très choquant. Un cimetière, aux yeux de la population, un cimetière, c'est sacré. Et qu'on soit chrétien ou pas chrétien, un cimetière, on n'y touche pas. Les gens sont là. Et tout de suite, la SNCF a bien réagi, finalement, parce que tout de suite, ils ont compris que ça allait engendrer une opposition de principe et qu'il y aurait des recours dans les tribunaux qui allaient leur faire perdre énormément de temps. Donc ils ont dit, on va chercher une autre solution. Alors l'autre solution, ça a été de déporter la petite ligne de façon à pouvoir déporter le cimetière d'une trentaine ou une quarantaine de mètres plus au sud pour éviter le cimetière. Seulement, ça a coûté beaucoup plus cher que le transfert du cimetière, parce qu'un TGV qui roule à 320 km/h, enfin, il peut aussi rouler à 500 km/h. On a eu des essais à plus plus de 500, nous, à Rouvray-Bonneval. Et ça se fait sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, il faut déporter les lignes, non pas sur... on ne peut pas faire un angle droit avec une ligne TGV. Hein. Donc, ils ont déporté ça sur des kilomètres et des kilomètres, ce qui leur a coûté effectivement beaucoup plus cher. Mais ça a évité un conflit et des oppositions de principe et des recours en justice.
Mais on ne comprend pas bien, parce que dans votre exposé, vous disiez qu'il y a déjà X années avant, le cimetière était autour de l'église et qu'il avait déjà été transféré. On n'avait pas fait d'histoire à ce moment-là.
Non, mais c'est parce que la petite ligne Bretigny-Tours existait déjà. La petite ligne Bretigny-Tours, 1865. Transfert du cimetière, 1901. Donc, quand la commune a acheté une nouvelle parcelle en 1900 pour construire le nouveau cimetière, la petite ligne existait déjà et la parcelle aboutait sur cette ligne. Donc, il n'y a pas eu de problème parce que la ligne était antérieure à la construction du cimetière.
Et on n'a pas réussi à convaincre les habitants, disant que leur défunt, de toute façon, ils étaient toujours dans leur boîte, on n'allait pas ouvrir la boîte. Ils auraient fait quand même des économies. C'est un esprit citoyen, oui, quand même, de ne pas trop...
Oui, je crois qu'entre l'esprit citoyen et puis la tradition et l'aspect affectif de la chose, il n'y a pas photo. Hein. L'aspect financier passe au second plan. La SNCF voulait passer un TGV, soit, mais qu'il le fasse en respectant certaines valeurs qui sont vraiment très, très importantes, surtout pour une population rurale. On ne touche pas à un cimetière.
D'une part la tradition, d'autre part le civisme, et puis le prix du billet qui va être augmenté si les frais de la SNCF sont plus élevés.
Vous savez, le prix du billet, les gens s'en soucient assez peu, dans la mesure où il n'y a aucune gare en Eure-et-Loir, et les gens de tous les Euréliens qui ont le TGV près de chez eux, et en particulier à Rouvray, on savait très bien que le TGV, on n'achèterait pas beaucoup de billets parce qu'on ne le prendrait jamais, puis il n'y a pas de gare.
Et voilà, on a fait le tracé, hop, et donc c'était déjà beaucoup de travail avant même de poser la voie.
Oui, parce que finalement, le TGV a été annoncé par le président Mitterrand en 1981. Il a été inauguré par ce même président Mitterrand en 1989, c'est-à-dire que le projet a duré 8 ans. Mais en vérité, la construction, l'aspect technique, la construction de la ligne elle-même, c'est-à-dire le creuser, aménager la plateforme, faire poser les rails, etc., ça n'a guère duré que 2 ans. Et c'est très curieux parce que le projet de la première ligne, 120 ans auparavant, avait aussi duré 8 ans. Sauf que ça avait été un petit peu inversé. Tout ce qui est enquête, tout ce qui est paperasse en clair, avait duré environ 2-3 ans pour des travaux qui avaient duré 5-6 ans. Et ça a été exactement la même durée au total pour le TGV, 8 ans, sauf que ça a été inversé. Il y a eu environ 5-6 ans de paperasse, d'enquête, de discussion, d'études, et seulement 2 ans de travaux. Et ça s'explique très, très très bien. Ça veut dire quand même qu'en 120 ans, toutes les procédures administratives se sont vraiment beaucoup complexifiées, l'aspect technique aussi, hein, les études aussi. Et puis, par contre, pour réaliser les travaux, bah, évidemment, on a vu arriver des matériels absolument... Enfin, moi, j'avais jamais vu ça dans la région, du moins. Des scrappeurs, des pelleteuses géantes, des camions en quantité et des grosseurs, avec des roues qui étaient plus hautes qu'un homme. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Puisque le TGV est électrique, hein, ça marche pas avec des piles, quand on a vu le montage des pylônes, et ils font tous entre 67 et 72 mètres sur la commune de Rouvray, bah c'est comme pour les éoliennes, pour monter un pylône de 72 mètres, il faut une grue qui aille beaucoup plus haut que 72 mètres. Donc quand on a vu arriver ces grues géantes, moi j'avais jamais vu de grue aussi haute que ça, des grues qui montent à 80 mètres, mais c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout dans la plaine de Beauce où il n'y a rien pour distraire l'œil, hein. Une grue de 80 mètres dans le milieu de la plaine, bah ça se remarque, c'est le clocher de la cathédrale. Hein.
Maintenant, on a un peu rattrapé avec les éoliennes.
Oui.
À nouveau, petite pause avant de terminer notre entretien. sommes toujours avec Roger Judaine, notre romancier local qui a décrit le bouleversement de l'arrivée du TGV du côté de Voves. Et alors, donc, comme c'est un roman, vous avez un peu étudié toutes les gens qui ont vécu ce bouleversement.
Vous savez, pour faire un roman, il n'y a guère que trois ingrédients. Il y a le cadre, les décors, le décor géographique. J'ai pris la commune de Rouvray-Saint-Florentin. Le décor événementiel. J'ai pris le projet TGV, et ça, je le respecte complètement. Ça, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, ce sont des personnages, et puis l'intrigue. Alors, il est évident que là, j'ai inventé, je reviens vraiment à 100% en tant que romancier, j'ai inventé une famille qui n'existe pas en vrai. On ne rencontrera jamais cette famille. J'ai repris le nom de Pichot pour cette famille, tout simplement parce que Pichot, c'est un nom qui figure dans ma propre famille, et c'est un nom qu'on trouve beaucoup en Eure-et-Loir. Et j'ai concentré sur ces deux générations, puisqu'il y a les plus anciens qui vont lâcher des terres, et le nouveau qui va reprendre des terres, donc l'agriculture du passé, l'agriculture du futur. Et j'ai concentré sur cette famille un grand nombre de choses qui est réellement arrivé, mais des choses qui sont arrivées à plusieurs familles, à plusieurs agriculteurs, à plusieurs personnages. Il est évident qu'il y a beaucoup de gens. Un agriculteur, par exemple, a vécu une situation qui mérite d'être dite. Mais c'est pas avec ça qu'on peut faire un roman. C'est pas assez dense. Donc j'ai concentré sur cette famille un certain nombre de choses bien réelles qui sont arrivées à Pierre-Paul Jacques. Donc voilà pourquoi et puis ça m'intéresse beaucoup beaucoup plus parce que on pourrait faire un livre retraçant qui correspondrait un peu à ma conférence, c'est-à-dire un livre qui reprendrait le projet TGV technique réel. Mais ça fait partie des choses qui sont mortes. Ça ne retrace pas du tout l'état d'esprit et ce que pensaient les gens au moment. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas en faire un musée, mais d'essayer de retrouver ce que pensaient les gens, comment ils ont réagi, comment ils discutaient, quelles étaient leurs préoccupations, quelles étaient leurs vies quotidiennes à cette époque. Et dans le cadre d'un roman, par contre, là, on peut le faire beaucoup plus facilement. Et c'est ça qui m'intéresse.
C'est quand même un projet, comme tous les projets, qui a rassemblé toute une communauté. De même qu'on peut voir plus grand, le Covid, il a rassemblé l'humanité. Et quelque part, on le sent dans chacune de nos vies. On n'est plus isolé. Il fallait qu'on ait tous devant un objectif qui nous rassemble tous. Et c'est ce qui s'était passé pour le TGV. Ça nous a sorti de nous-mêmes.
Oui, je partage votre point de vue, sauf pour le mot « tous ». Vous savez bien que ce soit pour le TGV, la construction d'une centrale nucléaire, d'un aéroport ou du TGV, le « tous » est très relatif, c'est-à-dire qu'il y a une majorité, mais il y a toujours des gens qui ne voient pas les choses de la même façon, qui ne sont pas forcément des opposants, mais qui aimeraient que les choses se fassent différemment. Pensez en ce moment, vous parlez du Covid, oui, mais une immense majorité de gens qui acceptent la vaccination, qui acceptent le masque, puis on sait bien qu'il y a des réfractaires pour d'autres, pour des raisons qui peuvent s'entendre d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai pour tout grand projet entraîne une grande adhésion, sinon il ne se fait pas. On a l'exemple du projet d'aéroport de Beauvilliers qui ne s'est pas fait parce que les opposants étaient majoritaires, et y compris parmi les promoteurs du projet, qui se sont rendus compte que ce ne serait sans doute pas forcément rentable, pas forcément pertinent dans une plaine comme la Beauce. Donc oui, le TGV a fait partie de ces très grands projets qui ont reçu majoritairement l'adhésion des populations, mais je crois que moi je reconnais que la SNCF a été habile dans l'histoire, c'est-à-dire qu'ils se sont ingéniés à ne pas braquer les gens. Ça leur a sans doute coûté cher, mais probablement beaucoup, beaucoup moins cher que s'ils avaient braqué la population et s'ils s'étaient embarqués dans un tas de procès. Il y a quand même 220 kilomètres entre Paris et Tours. Hein. Une commune, ça s'est traversé entre 3 et 5, 6 kilomètres. S'il fallait une dizaine de procès dans chaque commune traversée, ils s'en mettaient pour des années et des années sur le dos. C'était un projet qui devenait irréalisable.
Et dans votre roman, il y avait quelques contestataires ?
Dans mon roman, il y a quelques contestataires, des contestataires. Je ne sais pas si on peut appeler ces gens qui ne voient pas les choses de la même façon qu'une majorité des contestataires. Ce sont des gens qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être entendus. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter. Si c'est écouter pour à la fin dire « cause toujours, tu m'intéresses », écouter, ça a du sens que si on tient compte de et je pense que la SNCF s'est montrée à la hauteur à cette époque-là. Il faut dire que les temps étaient sans doute plus faciles et que l'argent était peut-être moins rare qu'aujourd'hui. Mais ces gens ont été écoutés, en particulier sur les problèmes de remembrement. À Rouvray, on a un très très bel exemple. Le principe de la SNCF, c'était autrefois avec la petite ligne, vous aviez trois passages, deux passages à niveau, un pont, on vous refait trois ponts. Oui, sauf qu'il y avait nécessité d'en faire quatre. Alors pour les SNCF, au départ, c'était clair, on supprime l'un des ponts qui existait avant. Et oui, mais les gens ne voyaient pas les choses comme ça, parce que ça obligeait des agriculteurs à faire des détours invraisemblables sur des routes trop fréquentées. Donc la SNCF a bien senti que là encore, ils allaient se heurter à des oppositions qui allaient se traduire devant les tribunaux. Ils ont cédé, ça leur a coûté le prix d'un pont, et c'est pas négligeable, le prix d'un pont, ça coûte cher. Mais en écoutant les gens et en admettant que, oui, ils n'avaient pas tout à fait tort, qu'on pouvait pas, que ce pont était utile, qu'il fallait le construire, je pense qu'ils se sont montrés intelligents et ils ont bien géré cette situation.
Et dans vos autres romans, il y a beaucoup de conflits.
Vous savez, dans un roman, il faut qu'il se passe des trucs. Si tout va bien, s'il se passe rien, si tout le monde est heureux, il n'y a pas de roman. Il faut forcément... Mais vous savez, là, en ce moment, je discute avec vous. Si on discute de sujets et d'autres, probablement que sur un grand nombre de points, on va être d'accord. Et puis, on va forcément avoir des désaccords, parce qu'on n'a pas la même expérience, parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas le même parcours professionnel, parce qu'on n'a pas le même âge. Donc, il n'y a rien de... vivre en communauté, c'est écouter les autres et c'est tenir compte de ce que les uns et les autres pensent. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment de l'opposition, ce n'est pas de la contestation. C'est une nécessité d'arriver à un consensus.
Alors, on rappelle donc votre dernier roman et demain le TGV que l'on peut avoir sur Châteaudun, en particulier à la librairie du coin que nous connaissons bien et qui vient régulièrement faire écho de ses coups de cœur. Nous vous remercions d'être venu. Pour le mot de la fin, que souhaitez-vous ajouter ?
Écoutez, je suis agréablement surpris parce que à partir de ce roman, j'ai monté une conférence pour retracer historiquement le véritable projet TGV. Et autant au mois de décembre, janvier, je constatais une fréquentation de ces conférences qui était un petit peu frileuse à cause du Covid, qui n'était pas à cause du sujet, mais à cause du Covid. Autant je constate depuis la fin janvier que les gens reviennent. J'ai donné une conférence ici à Châteaudun, celle dont vous parliez tout à l'heure. Il y avait du monde. La salle n'était pas complètement pleine, mais il y avait du monde. Les gens reviennent et ça me fait très plaisir de voir que les gens s'intéressent. Contrairement à ce qu'il est de bon ton de penser, s'intéresse beaucoup à l'histoire. Et l'histoire, c'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge, c'est ce qui s'est passé il y a 100 ans, mais c'est aussi ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et c'est le cas du TGV. Parce que finalement, pour avoir des souvenirs du TGV dans la région, il faut avoir au moins 50 ans. C'est-à-dire, le projet date de 40 ans, mais avant 10 ans, on n'a pas grand souvenir. Donc, des gens qui ont moins de 50 ans, il y en a beaucoup dans la population. Et il y en a beaucoup qui s'intéressent à cette histoire récente, mais qui s'intéressent.
Eh bien, au revoir. Et puis, la prochaine fois, ce sera pour votre 123e roman.
Oh, volontiers.